y a les sacrements dans ton église. Voilà. Voilà à quoi... Mais nous, en tant que chrétiens, est-ce que nous savons pourquoi le Seigneur il a institué l'église? À quoi sert l'église? Le Seigneur, il a dit, je bâtirai mon église. Donc, c'est quelque chose qui n'existait pas auparavant. C'est le Seigneur qui l'a. Donc, il a bâti et il a créé avec une mission spéciale. Quelle est cette mission que l'Église il doit avoir premièrement? Bien sûr, il y en a d'autres choses, mais première chose que l'Église il doit faire, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert une Église? Je vous invite maintenant à imaginer. Imaginez Jésus 40 jours après sa crucifixion. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il monte au ciel. Et là, tous les anges ils sont autour de lui. Bien sûr, je vous dis que ce n'est pas biblique, hein, c'est une image. Hein. Ne venez pas me dire où est-ce que c'est marqué ça. Hein. Tous les anges ils vont autour de lui, ils sont contents parce qu'il est rentré à la maison. Et alors, quelqu'un il se présente et lui dit, « Mais est-ce que tu as accompli ta mission ?» Il a dit, « Oui, oui, bien sûr, je l'ai accompli. » Et il a dit, « Et quel est ton plan ?» Et Jésus, il a dit, écoute, j'ai choisi 12 apôtres, 12 hommes, pour qu'ils puissent répandre tout autour de ce monde la bonne nouvelle que je suis venu annoncer. Les anges se sont regardés, il a dit, des hommes. Pourquoi? Parce que nous savons que l'homme il n'est pas aussi fidèle. Hein? Et pourtant, ce que le Seigneur il demande, Paul il nous l'a dit, ce qu'on demande des dispensateurs, des chrétiens, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Alors ils se sont regardés, ils ont dit, à des hommes. Et il a dit, mais tu n'as pas un plan B? Parce qu'ils nous connaissent, les anges. Voilà pourquoi le Seigneur il a dit, il n'y a pas de plan B. Il y a ce que j'ai préparé, ce que je leur ai enseigné, et je leur ai dit ce qu'ils doivent faire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'ils doivent faire? Cette église que le Seigneur a préparée, on peut trouver ça, c'est dans Matthieu 28. Je suis sûr que vous l'avez lu plusieurs fois, ce verset, mais il faut qu'on soit bien défini sur la mission de l'église. Et c'est la mission que le Seigneur il nous a donnée. Il a donné ça à tous ceux qui auront cru en lui, qu'ils se seront repentis en confessant leurs péchés et qu'ils auraient accepté Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Tous ceux qui font cela, ils appartiennent à l'Église. Que l'Église, c'est l'ensemble, tout l'ensemble, partout dans le monde, de tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur cœur, qui ont été lavés par le sang précieux de Jésus-Christ. Regardez Matthieu 28, verset 17, ou 16, bon, prenons 16. Les 11 disciples, vous savez pourquoi ils sont 11, hein? Voilà, hein? Judas il n'est pas là, il est parti, c'est par la suite dans le livre des Actes que Matthias il va être choisi comme 12e. Hein? Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils les virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné, dans les ciels et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et pour conclure, dans Marc, hein, de chapitre 16 jusqu'à 19-20, le Seigneur, après leur avoir parlé, il fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Voilà ce que le Seigneur il a dit. Les anges lui ont dit, mais tu n'as pas un plan B? Le Seigneur il a dit non. J'en ai choisi 12. Ces paroles du Seigneur, ils sont appelées la grande mission. La grande mission, la mission universelle. Cette mission que le Seigneur il a donnée aux disciples, mais aussi à nous qui sommes devenus disciples du Seigneur, qui avons accepté encore une fois le Seigneur Jésus. Hein? Et je vous invite à bien étudier, réfléchir sur ces versets. Alors, il y a deux choses que le Seigneur il désire que l'Église il fasse. Deux choses, pas 36 000. Il y en a encore d'autres, mais premièrement, vous vous souvenez de ce verset? Cherchez premièrement. Voilà, c'est premièrement. Il y a deux choses que le Seigneur il dit à son Église de faire. Premièrement, c'est au verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Il y a, c'est évangéliser, c'est la première chose qu'il faut faire. Évangéliser. Et il nous a dit, allez, allez. Ces mots, c'est un impératif, mais présent. Que ça signifie en allant. C'est-à-dire que pendant toute notre vie, dans tout ce que nous faisons, avec toutes les personnes qu'on doit parler, nous devons parler de Jésus-Christ. En allant dans le cours de votre vie, il faut parler, il faut témoigner. Et ça, beaucoup, ce mot-là, aller, beaucoup de chrétiens ils l'ont en horreur aussi. Pourquoi? Parce qu'ils n'y vont pas. Du missionnaire, je ne suis pas appelé à être missionnaire. Mais le Seigneur, il ne te demande pas d'aller loin, dans les pays éloignés. Le Seigneur, il appelle ces gens-là. Et ces gens-là, ils partent et ils quittent pour annoncer cette bonne nouvelle. Le Seigneur, il dit, en allant dans notre propre vie, dans votre propre vie, vous devez parler de cet ordre, de cet enseignement qu'on a reçu du Seigneur Jésus. Personne il doit se sentir exclu. Parce que c'est une mission, c'est un ordre que le Seigneur il nous donne. Et en tant que chrétien, est-ce que nous le faisons? Évangéliser, c'est quoi? Évangéliser, c'est témoigner. C'est apporter la bonne nouvelle à tous ceux qui encore ne connaissent pas Jésus. Et vous savez, il y en a. Il y en a plein. Les anges, j'ai oublié de vous le dire, mais est-ce que tout le monde il a entendu parler de toi? Et Jésus, il a dit, non. Mais j'ai laissé cette mission aux disciples. Et c'est notre mission. Je suis sûr que où vous travaillez, il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Je ne vous conseille pas, au lieu de travailler, d'aller leur parler de Jésus, non. Mais Paul nous dit, cueille toute occasion pour parler du Seigneur. Cueille toute occasion pour témoigner l'amour de Dieu pour toi. Et il dit, allez. Et s'il nous dit d'aller, c'est quelque chose qu'il faut le faire. Il dit, je suis chrétien, maintenant je m'assois. Non, c'est là qu'il faut aller. L'Église, elle a été habituée depuis le premier siècle, non, le deuxième siècle, une fois que les disciples, les apôtres sont décédés. Hein, vous savez qu'il y a eu, un certain moment, la naissance de ces bâtiments qu'on appelle Église. Et justement, il y avait, chaque Église, il a son clocher. Et ce clocher, il sonnait, chaque fois qu'il y a une réunion, il sonnait. Ding-dong, ding-dong, ding-dong. Et il appelait les gens à venir. L'Église, il ne va plus. Il appelle. Mais ça, c'est contraire à la mission que le Seigneur nous a donnée. Le Seigneur nous a dit, allez. Il n'a pas dit, sonnez les cloches pour que les gens y viennent. Non, il faut aller. Aller évangéliser. Et il nous a dit, faites de toutes les nations. Pourquoi le Seigneur il a dit de toutes les nations? Parce que dans l'Ancien Testament, il n'y avait que le peuple juif qui était le peuple des dieux, et ce peuple des dieux, il était juste pour les juifs. D'ailleurs, on a vu en lisant Job, pas Job, Jonas, hein? Dieu lui a dit, va Ninive, prêche. Et Jonas, il n'a pas voulu aller, il a dit, non, tu es notre Dieu, je ne vais pas te prêcher ailleurs. Mais ici, le Seigneur, il prolonge la portée de cette révélation, de cette mission, et il dit, à toutes les nations, pas seulement à Israël. D'ailleurs, le Jean-Baptiste, lorsqu'il a vu le Seigneur Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Je suis sûr qu'il y a eu des Juifs qui ont été scandalisés parce qu'il a dit du monde. Non, mais Jésus, il est venu pour sauver le monde. Voilà pourquoi il a dit, faites de toutes les nations, ne laissez derrière personne. Personne. Et à partir du deuxième siècle, les apôtres, ils ont fait leur travail. Hein? Dans toute l'Asie, il y a eu des églises qui ont été formées. Et églises, je ne parle pas des bâtiments, hein? Je parle des endroits où les chrétiens, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, ils se sont réunis. Ils étaient ensemble, ils partageaient le pain, ils partageaient la communion, ils partageaient tout. Et il nous a même dit, ils étaient tous les jours ensemble. Imaginez-vous que je vous dise, tous les jours on ouvre à 8h, à 9h le matin. Ou les soirs on se réunit tous les jours. À cette époque-là, c'était tous les jours. Et ils y étaient, parce qu'ils avaient au plus profond d'eux-mêmes l'amour de Dieu. Et il dit, toutes les nations, personne. Il y a Paul qui l'a propagé. La parole de Dieu dans tout l'Empire romain, même dans la maison même de l'empereur. À un certain moment, le Seigneur il a dit, va à Rome. Et il y a eu Agabus qui lui a dit, n'y va pas à Rome parce que là, ils vont t'enchaîner. Et Paul il lui a dit, le Seigneur m'a dit d'aller et j'y vais. Il savait qu'il allait pour mourir. C'est ça le de toutes les nations, les disciples. Et les deux premiers siècles, ils ont accompli cette tâche. Mais depuis, on a baissé. Et il dit, de toutes les nations, il devait faire quoi? Des disciples. Des disciples. Il n'a pas dit faire des membres. Il n'a pas dit faire des étudiants de la parole de Dieu. Il n'a pas dit faire des ouvriers. Non, pourquoi? Mais des disciples. Pourquoi? Parce qu'un disciple, il fait tout ça. Il fait tout ça. Ce qui intéresse Jésus, c'est de faire des disciples. C'est des gens qui apprennent de quelqu'un. C'est des gens qui suivent quelqu'un. Jamais le Seigneur il a dit, faites-vous des grandes églises. Non, le Seigneur il dit, faites-vous des disciples, des gens qui ont appris ce que le Seigneur veut et qui, à leur tour, ils font des disciples. C'est ça ce que le Seigneur nous demande. Des disciples, des gens qui suivent le Seigneur, des gens qui mettent en pratique ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Des disciples. Comme on dit, hein, on préfère dans une église avoir un bon noyau, que tous ces noyaux ils bougent, qu'avoir 1000 personnes et que personne ne fait rien. Ça, c'est le vrai noyau. Il y a dans des églises des noyaux. Un jour, ils ont demandé à un grand prédicateur, il dit, mais comment peux-tu avoir des prédications si fortes? Et il dit, au sous-sol de l'église, il y a le noyau. Il y avait des femmes qui priaient pendant que lui, il prêchait. C'est ça le noyau. Des gens qui sont là, qui tirent les chariots. Et pas des gens qui se laissent tirer. Le Seigneur, il veut des disciples. Et il veut des gens qui soient constamment derrière lui, qui apportent la bonne nouvelle. Et Paul, il disait, toutes les choses que j'ai apprises auparavant, je les laisse derrière. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est Jésus-Christ et Jésus crucifié seulement. Toutes les autres choses, je les laisse derrière. C'est la mission du Seigneur Jésus. C'est la mission de Jésus, que Jésus nous a donnée. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et c'est ça que nous devons faire. C'est ça que nous devons faire. Tout à l'heure, il y a des invités qui sont venus. Quelqu'un m'a dit, oui, il n'y a jamais d'invités ici. Ils sont venus, ils me l'ont dit à moi. Pourquoi tu me le dis à moi? Toi, où tu es? Un invité, ça veut dire quoi, être invité? C'est quelqu'un, ils te disent, tiens Jean-Pierre, viens avec moi à l'église. Un copain qui ne connaît pas le Seigneur, viens à l'église, pour que tu puisses entendre. C'est ça l'invité. Voilà pourquoi, c'est à nous d'inviter les gens. Parce que c'est pendant la prédication, pendant l'annonce de la parole de Dieu, que le Saint-Esprit, il touche le cœur. J'y suis passé, et vous y êtes passé aussi. Un jour, quelqu'un, il a témoigné pour vous. Peut-être qu'un jour, vous avez été dans une église, et c'est là que la parole de Dieu, il vous a touché. La prédication, c'est lui qui l'annonçait la parole, il vous a dit, « Tu es pécheur, tu mérites la mort, tu mérites le châtiment, et Dieu, pour les péchés que tu as dans ta vie, il va te condamner, il va te juger. Mais Dieu, il a préparé un plan pour toi. » Dieu, il veut te sauver. Et cette parole qu'on entend, cette parole qu'on nous témoigne, hein, il rentre dans notre tête. Et on se dit, en réfléchissant, si on est honnête, personne ne va dire, c'est vrai, mais moi, je ne suis pas pécheur. S'il est honnête, il veut dire, oui, je suis pécheur. Et Dieu, il m'a dit qu'il y a un salut pour moi. Et c'est là qu'une fois qu'on a pris conscience de cela, là, il descend dans le cœur. Et c'est là que le Saint-Esprit travaille. Et c'est de là que nous devons nous tourner vers les calvaires. C'est cette mission-là que nous devons faire. Comme je dis toujours, est-ce que vos voisins savent que vous êtes chrétien? Est-ce que vous répandez la parole de Dieu? C'est ça la chose la plus importante. Car il y a tout autour de nous des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Et si on dit qu'il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est qu'ils sont perdus. Et c'est encore une fois, si ce n'est pas nous qui leur disons qu'il y a un Dieu qui les aime, un Dieu qui a tout préparé pour eux, un Dieu qui veut les sauver, qui voulez-vous qu'il leur dise? Ce matin, on a parlé des démons. Les démons, sûrement, lorsque quelqu'un, il témoigne, il parle, il lui bouche les oreilles. C'est ça. Et c'est à nous, et ça c'est la mission que le Seigneur Jésus, il nous a donnée. Et nous devons l'accomplir, si nous sommes des chrétiens. Bien sûr, je ne mets pas en doute les saluts, mais un jour le Seigneur Jésus, au tribunal de Christ, il va me dire, Aldo, qu'est-ce que tu as fait? Ah, mais je t'ai accepté, Seigneur. Mais oui, mais qu'est-ce que tu as fait par rapport à la mission que j'ai donnée à l'Église? Est-ce que tu as témoigné? Est-ce que tu as évangélisé? Est-ce que tu as amené des hommes, des femmes à l'église? Est-ce que tu les as amenés vers les sauveurs? C'est ça qu'il va me demander. Il ne va pas me dire, tu n'es pas sauvé, puisque je suis là au tribunal de Christ. Mais je vais pleurer. Parce qu'au lieu de recevoir les paroles du Seigneur bon et fidèle serviteur, il me dira seulement, rentre Aldo. Au lieu de me dire « bon et fidèle serviteur ». C'est ça. Faites, allez, faites de toutes les nations des disciples. Comment? Les baptisant. Si on est disciple, on doit se faire baptiser. C'est l'ordre du Seigneur. Faites des disciples. Vous acceptez le Seigneur Jésus. Vous étudiez, vous fréquentez une église, vous méditez. Les baptisants, il faut se faire baptiser. Ah oui, mais moi, je ne vais pas me faire baptiser. Tu es sauvé quand même. Mais tu n'es pas obéissant. Et donc, un jour ou l'autre, le Seigneur, il va nous demander compte. Il va nous demander compte. Des fois, on lit des versets et on croit que... Et on ne réfléchit pas. Mais si on le lit bien, si on le médite, si on le rumine, comme il dit le frère Roland chaque fois, ruminer les vaches, il parle toujours des vaches. Et c'est vrai ce qu'ils font les vaches, ils mangent l'herbe et ils ruminent l'intérieur. Nous devons faire pareil, nous lisons la parole de Dieu, nous devons la méditer. Même lorsque nous sortons de l'église, quand nous sommes là, il travaille ailleurs, nous nous en souvenons de ce que nous avons lu, ce que nous avons médité, et alors là, voilà, nous repassons toutes ces choses-là, et nous fait du bien. C'est ça que le Seigneur est, et c'est ça l'Église. La mission de l'Église, c'est d'évangéliser. La deuxième mission de l'Église, c'est la formation. Évangélisation et formation. Les églises, ils sont là pour former les soi-disant disciples. Voilà pourquoi dans des églises, partout dans les églises, il y a des études bibliques, des études des femmes, des études d'hommes, des études d'enfants, des ados et tout ça. Pourquoi ? Pour former. Pour former. Il y a des gens qui ont été formés. Et Paul il disait à Timothée, « Ce que tu as entendu de moi, enseigne-le à d'autres. » Mais il faut une formation pour pouvoir former d'autres personnes. Vous qui travaillez dans des bureaux ou même dans des usines, je ne sais pas, vous avez été formés à faire ce travail-là. Et un jour, le patron il va vous voir et dire, ah, « Voilà, tu es bien arrivé, prends en charge. » Et tu lui enseignes toutes ces choses-là. Mais si on n'a pas été enseigné, « Ah, mais moi je vais faire tout seul à la maison. » Tu ne peux pas. Parce que sinon on tombe toujours dans... On lit la parole de Dieu et on ne la médite pas. On dit toujours aux chrétiens, c'est pour croître dans la connaissance de Jésus-Christ, on dit « Lisez la Bible. » Voilà. Il y a beaucoup qui disent, ils lisent la Bible. Ah, je lis 2 chapitres par jour la Bible. Oui, mais tu le lis comment? Lorsqu'on dit on lit la Bible, on la lit, on la médite, on y réfléchit dessus. Je vous le dis toujours, lorsqu'on lit la Bible, la personne à chercher, c'est où tu es Jésus? Où il est Jésus dans ce verset? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner, Seigneur? Et c'est comme ça qu'on découvre des fois des révélations. Dieu, il nous le dit, cherche-moi et je te révélerai des grandes choses. Ça m'est arrivé à moi aussi d'avoir lu un verset que je l'ai lu peut-être 1000 fois, mais ça ne m'a jamais parlé. Mais un jour, voilà, paf, j'ai compris vraiment ce que ce verset il voulait dire. Et là, merci Seigneur. C'est ça que le Seigneur il nous dit. Évangélisation et formation. Formation. Qu'est-ce que c'est que nous allons dire? Qu'est-ce que c'est que nous allons enseigner? Mais ce que le Seigneur Jésus il a fait, ce que le Seigneur Jésus a dit, ce que le Seigneur il va faire, toutes ces choses-là, nous devons être prêts à répondre à ceux qui nous posent des questions. J'ai eu quelqu'un qui m'a dit, oui, quelqu'un m'a posé une question, et je n'ai pas su répondre. J'ai dit, si tu aurais lu un peu plus la parole de Dieu, je lui ai montré le verset, et c'était la réponse exacte à donner à cette personne. Cette personne, elle est partie un peu tristounée, parce qu'il n'a pas reçu la réponse. Et vous savez, lorsqu'on ne peut pas donner la réponse, il n'y a rien de mal de dire... Je ne peux pas te répondre maintenant. Écoute, on peut se revoir demain ou après-demain. Je vais prier le Seigneur, je vais chercher dans la parole et je vais te donner, avec l'aide de Dieu, une réponse. Il n'y a rien de mal à montrer que nous ne savons pas. Mais il faut aussi être humble de dire la chose. Et pas dire des choses que la Bible ne dit pas. C'est ça la formation. À observer, enseigne-leur, à observer tout ce que je vous ai dit. Pas ce que les grands hommes, ils ont dit. Pas de ce grand homme de Dieu, il a dit, mais tout ce que je vous ai dit. Juste les paroles de Jésus, juste les enseignements de Jésus. Pourquoi Jésus? Parce que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Et les paroles de Jésus sont des paroles de Dieu. Et c'est ces paroles-là qui sauvent. Et c'est à nous de les connaître. C'est à nous de les connaître. Mais si on ne fréquente pas les études, si on ne médite pas la Bible, comment voulez-vous connaître? Beaucoup ils confondent aussi le verset de Pierre, lorsqu'il nous a dit « Croissez dans la connaissance de Jésus-Christ ». Et ils ont pris ce verset qu'on dit « Nous devons avoir une grande église ». 200, 300, 1000 personnes. Non, il faut croître dans la connaissance de Jésus-Christ. Faire des disciples. Déjà, nous ne sommes pas nombreux. Il y a beaucoup de personnes qui ne se connaissent pas entre eux. Imaginez-vous si nous étions 1000. Et il y a des gens qui disent, « Oh, mon église, il n'a pas l'amour, il n'a pas l'amour. » Et toi, et qu'est-ce que tu fais? Et pour montrer qu'il y a l'amour. Normalement, en tant que chrétiens, nous ne devons pas dire ça. Parce que nous parlons contre l'Église. L'Église qui est le corps de Jésus-Christ. L'Église qui est l'habitation de Dieu. Et si nous sommes vraiment des chrétiens, nous ne devons pas dire ces choses-là. Oui, mais telle personne, voilà, il ne sait pas enseigner. Toi, est-ce que tu peux faire mieux? Ah non, moi, mais alors... Et toi? Ah, il n'y a pas d'amour. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour qu'il y ait cet amour? Il y a des gens qui ne se disent même pas bonjour. Et nous sommes dans la maison de Dieu. C'est ça que le Seigneur nous dit. Parce que connaître, sans mettre en pratique, ce n'est pas du tout valable, hein? C'est pas du tout valable. Et c'est ça que le Seigneur nous a donné, cette mission universelle. Et c'est ce qui me réjouit, c'est ce qui doit nous réjouir. C'est ce que le Seigneur il nous dit à la fin de ce verset. Au commencement du verset, il dit, « Tout pouvoir m'a été donné. » Et à la fin du verset, il nous dit, « Je suis avec vous tous les jours. » Là encore, le Seigneur, il nous montre deux choses. Premièrement, c'est son pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné, dans les ciels et sous la terre. Alors, le Seigneur, il est dans notre cœur. Nous avons en nous cette puissance, le Saint-Esprit. Jésus, il a dit aux disciples, restez à Jérusalem, jusqu'à que vous receviez cette puissance, le Saint-Esprit, qui va intervenir sur vous, qui va habiter en vous. D'ailleurs, à la Pentecôte, les apôtres, qu'ils étaient enfermés, ils sont sortis et ils ont prêché les pouvoirs de Jésus. Ils ont eu peur de personne. Les souverains sacrificateurs, ne prêchez plus dans ce nom. À qui devons-nous obéir? À toi ou à Dieu? Ils avaient à eux cette... Et vous savez, nous, cette puissance, nous l'avons. Et des fois, je me compare, moi-même, pas spécialement vous ou les autres, mais moi-même, à une Ferrari. Hein? Je suis une Ferrari et je ne la mets jamais en route. La Ferrari, elle est puissante, n'est-ce pas? Mais jamais je la mets en route. Si seulement je tourne la clé, mais là, je suis une Ferrari, voilà. Je suis chrétien, bon, voilà. Oubliant la mission du Seigneur. Je suis avec vous. Le pouvoir et la présence. Le Seigneur, il nous a donné une mission. Nous parlons à sa place, le pouvoir de Jésus-Christ. Et aussi, nous avons sa présence. Je suis avec vous tous les jours. Oui, mais si je témoigne, je vandalise, qu'est-ce qui va m'arriver? Le Seigneur est avec nous. Ne vous occupez pas de ce que vous allez dire. L'Esprit, il vous dira toutes ces choses-là. Voilà la grande mission du Seigneur. Mais c'est ce qu'il faut, c'est être convaincu. Si je suis chrétien, je dois y obéir. Je dois mettre en pratique ce commandement du Seigneur. Encore une fois, le salut, il ne rentre pas en jeu. Si on a confessé nos péchés, si on s'est repenti, si on a été au pied de cette croix, on a demandé au Seigneur d'intervenir dans notre vie, nous sommes sauvés pour l'éternité. Mais le Seigneur, il nous a donné des dons à chacun de nous et nous devons les mettre en pratique. Si nous ne le mettons pas en pratique, le Seigneur, il va nous en demander compte. Qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai donné? C'est ça. Alors, vous désirez que le Seigneur, il te dise seulement « Rentre dans le royaume de ton Père » ou qu'il vous dise « Bon et fidèle serviteur ». Rentre. Ça, c'est le choix que chaque chrétien, il doit avoir au plus profond de lui-même. Et c'est à nous de pouvoir répondre au Seigneur, que nous puissions nous présenter devant le Seigneur sans avoir à rougir. Sans avoir à rougir. Bien sûr, on travaille. On a notre travail, on a d'autres choses à faire. Vous savez qu'ils ont fait un sondage. Les Français, ils passent 3 heures par jour devant la télé, autant de temps devant le net, et autant de temps à écouter des chansons. Qu'est-ce qui reste? Vous mettez le temps de travail, vous mettez le sommeil, croyez-vous qu'il reste grand-chose pour le Seigneur? Cherchez d'abord les royaumes de Dieu. C'est seulement comme ça que nous pourrons répondre au Seigneur. Voilà, Seigneur, ce que tu m'as donné, je l'ai mis en pratique. Je l'ai fait fructifier pour ta seule et pour ton unique gloire.